12h31 sur France Culture, tout de suite, le journal. Présenté par Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. La France célèbre depuis ce matin le 75e anniversaire du débarquement allié sur les plages de Normandie en présence de plusieurs vétérans, mais aussi de la première ministre britannique Theresa May, laquelle démissionnera demain de son poste à Downing Street, sans oublier le président américain Donald Trump, dont les décisions unilatérales continuent d'éprouver régulièrement ses alliés européens.
Fiat Chrysler a retiré dans la nuit sa proposition de fusion avec Renault.
Et le constructeur italo-américain qui fait porter aujourd'hui la responsabilité de cet échec au gouvernement français actionnaire de la marque aux losanges. Au Danemark, les sociaux-démocrates ont remporté des législatives hier marquées par une poussée écologiste, mais aussi l'effondrement des populistes anti-immigration. En revanche, le morcellement du paysage politique pourrait contraindre les sociaux-démocrates à nouer des alliances pour assurer la stabilité de l'exécutif. Enfin, l'invité politique de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Caroline Rose, députée européenne Europe Écologie Les Verts. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Faut-il être narcissique pour être heureux? Il met du baume sur nos égaux. Le philosophe Fabrice Midal sera l'invité de la deuxième partie de la grande table.
Merci, à tout à l'heure. C'était il y a 75 ans, le 6 juin 1944, à l'aube, l'histoire avec un grand H débarquait sur les plages de Normandie. Et à l'heure de célébrer ce 75e anniversaire, eh bien une question se pose. L'événement marquerait-il aujourd'hui la fin des illusions? À tout le moins, ces cérémonies du débarquement, symbole pourtant de l'unité des alliés, auront sans doute du mal à masquer derrière les hommages et les sourires, les évolutions parfois hasardeuses de l'histoire. Quand l'ancien allié britannique est aujourd'hui sur le point de claquer la porte de l'Europe, le sauveur américain est lui représenté aujourd'hui par un président chantre de l'unilatéralisme et du nationalisme. Ou quand la réunion ce matin de la dizaine de chefs d'État, de gouvernement et de têtes couronnées sur les plages normandes pour la photo de famille officielle avait décidément quelque chose de surréaliste. Quoi qu'il en soit, la première cérémonie de cette longue journée de commémoration a donc eu lieu en début de matinée à Vers-sur-Mer. Theresa May a posé la première pierre d'un mémorial britannique en présence d'Emmanuel Macron. Le président français qui a rejoint ensuite Colville-sur-Mer pour une deuxième cérémonie, cette fois-ci au cimetière américain avec son homologue Donald Trump. Nathalie Hernandez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place où la cérémonie, écoutez, je crois, est toujours en cours.
Oui. Elle est toujours en cours. C'est Donald Trump qui s'exprime actuellement depuis une bonne demi-heure. Le président américain personnalise son discours. Il s'adresse à certains vétérans, va les voir, va les saluer, leur rend hommage. Il a un discours avec beaucoup d'émotions, beaucoup de mots qui sont très forts symboliquement. Il parle de ce 6 juin qui a été le moment où les Américains sont venus en France, cette terre qu'ils ne connaissaient pas forcément, revendiquer ce sol, ce continent, cette civilisation. Il remercie tous ces soldats qui s'étaient lancés dans une croisade contre l'empire nazi. Ces Américains venus des fermes, des usines, des grandes villes industrielles, il les remercie parce qu'ils ont ensuite œuvré dans leur pays quand ils sont entrés, des hommes extraordinaires qui ont continué d'œuvrer pour leur pays, qui se sont placés, des Américains qui se sont placés dans la paume de Dieu. Et cette alliance entre la France et les États-Unis, eh bien, pour Donald Trump, en tout cas, c'est un lien incassable aujourd'hui. C'est le même constat que a fait le président français Emmanuel Macron, puisque effectivement, pour lui, liberté et démocratie, en tout cas, en ce moment, aujourd'hui, actuellement, sont inséparables et que la France tient à redire qu'elle doit beaucoup aux Américains, qu'elle n'oubliera pas, qu'elle sera digne de cet héritage. Le président français a d'ailleurs remis la Légion d'honneur à 5 vétérans américains présents ici à Colville-sur-Mer.
Merci Nathalie Hernandez. Alors après cette cérémonie, Emmanuel Macron et Donald Trump doivent se rendre à Caen d'ici une heure pour un tête-à-tête suivi d'un déjeuner de travail. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes-vous sur place
sur
à
le
Caen
papier. Oui, je suis sur place à Caen et vous savez, sur le papier, il ne faut pas s'attendre à grand-chose de ce déjeuner. Le président américain est attendu vers 13h15 à la préfecture de Caen, puis un tête-à-tête est prévu entre les deux hommes, entre 13h30 et 14h. 30 minutes, c'est peu, vous savez, quand on sait le nombre de dossiers qu'il y a sur la table. Iran, sanctions commerciales, Moyen-Orient, terrorisme, préparation du prochain G7 à Biarritz. Et de toute façon, Donald Trump n'est pas là pour ça. Il est présent aujourd'hui pour les commémorations et devrait repartir d'ailleurs dans la foulée. Bref, il était impossible de ne pas prévoir une rencontre, mais elle existe surtout pour la photo plutôt que pour des décisions politiques majeures.
Et ce d'autant, Nathanaël, que la relation entre les deux hommes n'est pas franchement au beau fixe.
Ah oui, il est loin le temps de mon cher Emmanuel et de mon cher Donald, quand les deux présidents se serraient la main sans vouloir la lâcher. Depuis, le ton a changé, la relation s'est dégradée. On se souvient des tweets de Donald Trump en fin d'année dernière où il se moquait du président français à la popularité en berne dans un pays où le taux de chômage est élevé. D'autant que les deux hommes ont des visions totalement différentes du monde. Pour le président français, le cadre idéal, c'est l'ONU avec un maximum de multilatéralisme, c'est-à-dire de tous les pays ensemble. Pour le président américain, bien c'est l'inverse, besoin de personne pour régler les problèmes, puisque de toute façon la règle, c'est America first, l'Amérique d'abord.
Merci Nathanaël Charbonnier, en direct de Caen, ainsi qu'à Yves Lehor pour les moyens techniques. Alors toutes ces cérémonies autour du 75e anniversaire du débarquement constitueront la dernière grande apparition publique à l'étranger de Theresa May en tant que première ministre britannique en fonction. Sa démission formelle du 10 Downing Street, faute d'avoir pu ratifier l'accord sur le Brexit, interviendra demain. Et puis autre signe de cette tempête politique qui balaye actuellement le Royaume-Uni, c'est aujourd'hui que le parti de Nigel Farage, fort de son succès aux élections européennes, pourrait décrocher un premier siège à la Chambre des communes à l'occasion d'une élection partielle dans l'est de l'Angleterre. Comme attendu, après la Suède et la Finlande, le Danemark est devenu cette nuit le troisième pays nordique à se choisir un gouvernement de gauche en moins d'un an. Avec près de 26% des suffrages, les sociaux-démocrates danois sont arrivés en tête hier des législatives. Le premier ministre libéral devrait lui remettre sa démission aujourd'hui. De son côté, le Parti du peuple danois, force charnière de l'échiquier politique au Royaume-Uni depuis près de 20 ans, a enregistré un cinglant revers, perdant plus de la moitié de ses sièges. La formation populiste, eurosceptique et anti immigration enregistre même son plus mauvais résultat depuis 1998. Alors, bien que majoritaire, les sociaux-démocrates seront toutefois contraints de forger des alliances en vue de former un gouvernement, et la tâche s'annonce difficile, non seulement parce que leur victoire tient moins au score du parti arrivé certes en tête mais en recul par rapport à 2015 qu'à la progression des autres partis de gauche, et puis parce qu'ils seront aussi sans doute amenés à nouer des alliances avec la droite sur l'immigration. Les précisions de Marie-Pierre Véraud.
Le Danemark est coutumier des coalitions et des tractations, mais la tâche de la future plus jeune première ministre du Royaume s'annonce en effet un peu rude. Et ce, alors même que le Bloc Rouge, qui rassemble aux côtés des sociaux-démocrates le Parti social-libéral, le Parti socialiste et les écologistes, réunit la majorité absolue des sièges. Il faut dire que les lignes de fracture restent profondes entre les potentiels alliés, sur la politique migratoire notamment. Le Parti social-démocrate a assumé un virage très serré sur sa droite en matière de fermeture des frontières, d'asile, de renvoi des migrants. Une ligne juste et réaliste, proclame le programme de Mette Frederiksen au nom de l'État-providence et pour assurer sa survie. Mais les partis de gauche, notamment les sociaux-libéraux, l'ancien parti de la commissaire européenne Vestager, qui ont doublé leur score avec près de 9%, ont fait savoir durant la campagne qu'ils souhaitaient voir cette ligne assouplie. Mette Frederiksen l'exclut formellement, assurant que si elle a reconquis l'électorat de gauche, c'est grâce à sa fermeté. Ce dossier migratoire est d'ailleurs le seul sur lequel elle ait fait des promesses concrètes durant la campagne. Sur les politiques environnementales, à présent, les Verts risquent aussi de renforcer leurs exigences. Quant au soutien à l'État-providence, Pierre Angulaire de la société danoise, il fait lui consensus. La patronne des sociaux-démocrates envisage de former un gouvernement minoritaire et de chercher des appuis à droite ou à gauche, au cas par cas. Les tractations à gauche s'ouvrent donc ce jeudi dans la capitale danoise. Elles devraient durer plusieurs semaines.
C'est l'un des pires tueurs en série de l'histoire récente. Ce matin, la justice allemande a reconnu un homme de 42 ans coupable de 85 meurtres et l'a condamné à la perpétuité assortie d'une période de sûreté par désir maladif de briller. Cet infirmier provoquait des arrêts cardiaques par injection médicamenteuse chez ses patients choisis arbitrairement et tentait de les réanimer le plus souvent sans succès. La police le suspecte d'en avoir tué au total jusqu'à 200. Aux États-Unis, le groupe pharmaceutique Pfizer a-t-il volontairement renoncé à des recherches sur un médicament capable de réduire les risques d'Alzheimer. Dans tous les cas, ce qu'affirme le quotidien américain Washington Post dans son édition datée d'hier, le journal explique que la multinationale, après avoir découvert que l'un de ses antidouleurs prescrits contre l'arthrite avait aussi une autre vertu, celle de réduire de 64% les risques de développer la maladie d'Alzheimer, aurait finalement renoncé à aller plus loin dans ses recherches pour des raisons financière, ce que dément aujourd'hui le groupe pharmaceutique Pfizer. C'est une correspondance à Washington signée Grégory Phillips.
En 2015, une équipe de chercheurs de Pfizer découvre en analysant une banque de données d'environ 130 000 patients que le médicament Enbrel, un antidouleur utilisé par les personnes atteintes d'arthrite, a peut-être aussi une autre vertu, celle de réduire de 64% les risques de développer la maladie d'Alzheimer. L'équipe propose alors à sa direction, selon le Washington Post, de lancer un vaste essai clinique sur 3 à 4 000 personnes. Mais une telle démarche coûte cher, environ 80 millions de dollars, et c'est un gros investissement pour une molécule qui va bientôt tomber dans le domaine public. Le journal affirme donc que Pfizer a renoncé à mener plus loin ses travaux pour des raisons financières. Il donne aussi la parole à des médecins qui pensent qu'à minima, le groupe aurait dû rendre public le résultat de ses premiers travaux. Pfizer a réagi en affirmant que sa décision n'avait été motivée que par des raisons scientifiques et non financières. Le laboratoire qui, l'an dernier, a fermé sa division neurologie, alors que la maladie d'Alzheimer frappe aujourd'hui près de 6 millions d'Américains.
Plus de 144 000 migrants ont été arrêtés à la frontière mexicano-américaine le mois dernier, un record depuis 2007. Les interpellations y sont en hausse de 32% par rapport au mois d'avril. Précisons par ailleurs que ces chiffres ont été dévoilés alors que les États-Unis et le Mexique sont aujourd'hui engagés dans des négociations cruciales sur les droits de douane à Washington après que Donald Trump a menacé de taxer les importations mexicaines si Mexico n'aidait pas les États-Unis à bloquer les migrants à la frontière. Des morts par dizaines et un pays dans l'impasse. Passe au Soudan. Le bilan de la répression armée contre les manifestants lundi dernier ne cesse de grimper. Les médias évoquent désormais plus d'une centaine de tués. De leur côté, les chefs du mouvement de contestation comme de l'opposition ont rejeté hier l'offre de reprise du dialogue proposée par les militaires au pouvoir. C'est un nouveau coup dur pour Renault après l'affaire Ghosn, mais aussi un revers pour son successeur à la présidence du constructeur français. Contre toute attente, Fiat Chrysler a retiré son offre de fusion avec la marque aux losanges. Le constructeur automobile italo-américain a annulé dans la nuit sa proposition à 30 milliards d'euros qui aurait dû donner naissance au troisième constructeur automobile mondial. Annabelle Grolli, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors il semblerait que cette décision ait été prise après que le gouvernement français a demandé un report du vote du conseil d'administration de Renault sur ce projet. En clair, le groupe italo-américain met en cause l'État français, actionnaire du constructeur à 15%. En réalité, Annabelle, cette rupture spectaculaire met surtout en exergue l'histoire tumultueuse des relations italo-franco et même japonaises, c'est-à-dire entre deux mondes aussi bien économiques que culturels.
Oui, un montage complexe doublé d'un mélange des cultures. Le dossier de cette fusion était bien trop gros pour qu'il soit mené tambour battant en un mois. Fiat Chrysler invoque en effet des raisons politiques pour expliquer son retrait. Et en effet, il y a de quoi perdre son latin. Vous avez un groupe Renault-Nissan où entre Français et Japonais, il y a déjà l'affaire Carlos Ghosn qui n'est pas tout à fait réglé encore, qui a quand même jeté un grand froid entre les deux partenaires. Et la culture japonaise vous oblige tout de même à respecter quelques codes d'honneur et quelques autres petites subtilités. À côté, pour ce mariage, vous avez un groupe italo-américain, Fiat Chrysler. Et là encore, les relations entre la France et l'Italie ne sont pas au mieux. Vous avez de surcroît un acteur dans ce mariage qui est l'État français. La culture étatique, ce n'est pas dans la culture italienne ni américaine. D'où l'impatience de Fiat Chrysler devant la prudence affichée cette nuit de la France dans la négociation. Donc là, on est dans un moment particulier où la diplomatie française va devoir jouer pour apaiser son partenaire japonais. Selon une source proche du dossier, l'État espérerait convaincre Nissan de voter en faveur de la fusion. Bruno Le Maire aurait des entrevues avec des représentants japonais en fin de semaine en marge du G20 au Japon et il se dit qu'un vote pourrait ensuite avoir lieu mardi. Fiat Chrysler peut toujours trouver d'autres partenaires pour nourrir ses ambitions industrielles et technologiques, plus en accord avec sa culture, mais il peut aussi revenir plus tard dans la négociation. Quoi qu'il en soit, en amour comme en affaires, mieux vaut ne pas se marier que mal se marier.
Merci Annabelle Grolier. Grève, réquisition, arrêt maladie, la crise des urgences hospitalières dure depuis bientôt 3 mois et ne cesse de s'amplifier avec notamment une manifestation nationale prévue aujourd'hui à Paris en attendant une hypothétique rencontre avec la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Quoi qu'il en soit, les 82 services d'urgence en crise vont donc pouvoir se compter aujourd'hui. Tara Schlegel a joint Bleuhen, elle est aide-soignante depuis 10 ans. Elle était ce matin dans le camion qui l'amène gare Montparnasse où se trouve le rassemblement.
On se bat aujourd'hui aussi pour les patients, parce qu'on en a marre de s'excuser parce qu'on ne peut pas leur donner un verre d'eau, de s'excuser parce qu'on n'a pas de couverture, de s'excuser parce qu'on ne peut pas les amener aux toilettes dans les 5 minutes alors que c'est des besoins fondamentaux. On est voilà tout le temps en train de dire excusez-moi, désolé, je reviens. Et des fois, on n'a même pas le temps de revenir. Et on rentre chez nous et on a l'impression d'avoir fait un travail pourri. Et c'est pas notre vocation. Nous, on est là pour aider, mais aujourd'hui, on ne nous donne plus du tout les moyens de le faire correctement.
Vous en appelez à la ministre de la Santé ?
La ministre de la Santé, ça fait un moment qu'on l'appelle. Ça fait 3 mois depuis le début. Je pense que c'est à elle de nous donner des solutions. Et rapidement, parce que les solutions 2022, nous, on ne peut pas attendre 2022. Clairement, on est épuisés. On est tous à bout de force. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grève, quand on est soignant, on est réquisitionné, donc on travaille. Et tout ce qu'on fait pour notre mouvement, c'est sur notre temps personnel. Ça nous prend énormément d'énergie. On est obligé de assurer des soins de qualité parce que les patients ne doivent pas être impactés par ce mouvement de grève. Mais là, on est épuisé, on n'est pas écouté et clairement, là, on est à bout.
On savait déjà Radio France sous la menace d'un plan d'économie de 60 millions d'euros. Les salariés redoutaient qu'il ne s'accompagne de suppression de postes. Et bien depuis ce matin, les craintes semblent se préciser. La direction a révélé qu'elle prévoyait entre 270 et 390 suppressions d'emplois. La direction qui demande également aux salariés la suppression de 7 à 12 jours de congés. Quand la crise s'approfondit chaque jour un peu plus chez les Républicains, hier soir, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a annoncé quitter le parti dans la foulée. Plusieurs de ses proches ont également annoncé leur départ de LR, une nouvelle épreuve donc pour une droite décidément dans la tourmente après sa cinglante défaite aux Européennes et 3 jours seulement après la démission de son président Laurent Wauquiez. De son côté, Europe Écologie Les Verts compte bien remporter les mairies de plusieurs grandes villes lors des municipales de 2020. C'est du moins ce qu'espère son leader, Yannick Jadot. En revanche, interrogé sur les alliances envisagées pour ce scrutin municipal, le chef de file des écologistes confirme vouloir distinguer les citoyens des appareils. Avant de préciser, les jeunes ne nous ont pas donné mandat pour nous asseoir autour d'une table avec Olivier Faure, Benoît Hamon et Fabien Roussel. Comprenez respectivement les dirigeants du Parti Socialiste de Génération et du Parti Communiste. Des déclarations que l'ex-député et maire écologiste de Bègle, Noël Mamère, juge lui glaçantes. L'ancien candidat vert à la présidentielle de 2002 qui presse les écologistes de ne pas cultiver une autonomie qui passerait par l'ignorance des autres forces de gauche. Et voilà qui nous conduit tout naturellement à l'invité politique de la rédaction aujourd'hui, Caroline Rose, députée européenne, Europe Écologie Les Verts, en direct et en duplex de chez nos confrères de France Bleu Azur. Bonjour madame.
Oui, bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane. Bonjour. Une première question, bonjour. Madame Rose. J'évoquais à l'instant le match donc entre Yannick Jadot et Noël Mamère sur la ligne politique finalement adoptée pour les écologistes. De quel côté vous placez-vous ?
Alors, moi, je suis écologiste de terrain avant tout, donc le problème de droite, de gauche, pour moi, ne doit même pas se poser. Il faut qu'on travaille sur le fond. On a un travail à faire au niveau des projets, de ce qu'il y a dans chaque travail. Et le problème de gauche-droite ne doit pas se poser. On est écologiste avant tout et on doit travailler là-dedans.
Question de Stéphane Robert.
Est-ce que dans les ambitions affichées par Yannick Jadot, il parle de conquérir des villes, des mairies, d'exercer le pouvoir. Cette tribune, là, notamment signée par Noël Mamère, dénonce un péché d'orgueil et d'isolement. On a l'impression qu'il se préoccupe davantage d'enjeux nationaux que d'enjeux européens. Est-ce que ça vous interpelle ?
Non, ça m'interpelle pas parce que est-ce que la victoire des écologistes par rapport à ce qu'a fait Yannick Jadot était prétentieux d'interdire la pêche électrique ? Non. Est-ce que ce qu'a fait Karima Delli par rapport au Dieselgate, est-ce que c'était ambitieux ? Non, c'est des victoires qu'on a eues et il faut continuer à travailler dans ce sens-là.
Oui, mais ceci dit, les ambitions qu'affiche Yannick Jadot apparaissent des ambitions plus nationales qu'européennes, que le combat que vous voulez porter, vous ? Non.
Oui, mais on va d'abord travailler au niveau européen et après on va s'étoffer au niveau national et au niveau local.
Vous avez décidé de boycotter la réunion prévue demain à Matignon avec le Premier ministre qui a invité les 79 eurodéputés élus le 26 mai dernier, donc vous faites partie. Il veut réunir, dit-il, l'équipe de France des députés européens. Pour quelle raison vous avez décidé de boycotter cette réunion ?
Pour nous, c'était prématuré. On a répondu d'ailleurs en ce sens en disant que c'était prématuré. On est à disposition, mais c'était prématuré.
Vous savez qu'il y a deux logiques qui s'affrontent au sein du Parlement européen, la logique de groupe, celle que vous défendez manifestement, et la logique nationale. Cette seconde logique-là ne vous intéresse pas ?
on n'a pas dit que ça nous intéressait pas. Moi, c'est mon premier mandat au sein du Parlement européen. D'ailleurs, c'est mon premier mandat tout court. Je dois me poser d'abord avant de continuer à avancer sur des commissions de travail. Pour l'instant, on se pose et ensuite on va voir ce qu'on fait.
Est-ce que ça change quelque chose que vous soyez de nationalité belge, puisque vous n'avez pas la nationalité française, et que vous êtes élu pourtant avec la délégation française? Ça change quelque chose pour vous dans votre positionnement au sein du groupe et dans ce que vous allez défendre?
Non, pas du tout, puisque je suis née en Belgique en 68, puisque j'ai 50 ans, et j'habite sur Villeneuve-Loubet depuis 1972, donc française, résidente française depuis 1972, donc je me sens tout à fait française au sein du Parlement européen.
Est-ce que vous avez le sentiment, avec les nombreux élus, le groupe Vert, le groupe des Verts progresse au Parlement européen, vous avez le sentiment qu'un vent souffle en faveur de l'écologie en France notamment, mais en Europe plus largement ?
Ah oui, tout à fait. Et je pense que on va continuer dans ce sens-là. Quand on voit tout ce qui se passe actuellement au niveau du climat, etc., il faut agir. Il faut pas attendre 50 ans pour agir. Maintenant, il faut avancer et je pense que les gens l'ont compris.
Qu'est-ce que vous allez défendre comme dossier en priorité ?
Alors, moi je suis issue d'une famille de marins, puisque mon père était marin. Mon mari était marin, puisque je suis veuve. Et moi-même, ayant passé un diplôme de sauvetage en mer, j'ai choisi la commission pêche, préservation des océans, sachant que je ne sais pas si elle me sera attribuée, mais ça fait partie de mon cheval de bataille.
Ça dépend de quoi, ça, l'attribution des commissions ?
Bah, disons que on dépose ce qu'on aimerait faire, c'est discuté, c'est débattu, et ensuite on nous dit ce qu'il y a de possible à faire.
Qu'est-ce que vous aimeriez défendre au sein de cette commission pêche ?
Alors, ce que j'aimerais défendre au sein de cette commission pêche, quand je vois le fond des océans avec un milliard de plastique au fond, toute cette ces ancrages marins sauvages, j'ai l'impression quand je vais aux îles d'être sur un parking avec des ancres qui arrachent les algues, etc., la Posidonie et les espèces de poissons, on n'a plus rien. Donc, à un moment donné, il faut défendre tout ça.
Vous savez que c'est compliqué de faire avancer les dossiers au Parlement européen. Vous êtes un peu plus de 750 députés. Vous êtes un groupe de 75, si j'ai bien compté. Mm-hmm. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi un peu à ces questions-là ? Est-ce que vous appuyez sur l'expérience d'un certain nombre de députés Europe Écologie Les Verts qui seront à vos côtés ? Est-ce que vous avez anticipé toutes ces questions-là ?
Alors, on est en train d'y travailler dessus, puisque bon, moi, je me pose et j'arrive, donc je dirais que je pose mes valises. J'ai des beaux modèles, puisque quand je vois les victoires qui ont été acquises, je dirais, par Yannick Jadot, par Michel Rivasi, par Karim Adeli, pour moi, c'est des beaux modèles qui continuent à être là et qui sont très assidus au niveau de leur travail au sein du Parlement européen. Ils sont toujours présents. C'est ça que j'ai des bons professeurs.
Vous allez essentiellement travailler avec vos 12 autres collègues de la délégation française ou vous comptez passer du temps aussi avec les 60 et quelques autres députés des autres nationalités pour essayer de construire quelque chose d'un peu plus fort au niveau du groupe ?
On va travailler tous ensemble. Bien sûr, on va travailler, nous, à 12, puis peut-être à 13, puisque justement, on a un 13e élu qui devrait arriver par rapport au Brexit. Et ensuite, oui, bien sûr, on fait des réunions de groupe et on se parle tous entre nous.
Vous avez un cheval de bataille, vous me disiez tout à l'heure, d'instaurer, comme ce qui existe en Belgique, un jour végétarien.
Oui, en fait, pour éviter de consommer trop de viande, moi-même, je consomme très très peu de viande. J'aimerais qu'on mette en place, comme il existe dans les cantines en Belgique, un jour de repas végétarien.
Alors, comment est-ce que vous avez décidé de convaincre déjà vos collègues du groupe Europe Écologie Les Verts et puis d'aller au-delà, parce qu'il va falloir pour faire passer ça au niveau du Parlement européen, aller bien au-delà du groupe.
Oui, c'est bien au-delà du groupe, mais bon, au sein de mon groupe, on en avait parlé justement pendant la campagne. Ça a été très très bien admis, ça a été très acquis en fait. Et on fera pareil au niveau du groupe élargi.
Et on terminera par ces mots. Merci Caroline Rose, députée européenne Europe Écologie Les Verts, d'avoir répondu à notre invitation depuis chez nos confrères de France Bleu Azur. Et merci également à Stéphane Robert. On termine avec un mot de météo. Le temps de cet après-midi sera plus calme, avec toutefois une petite instabilité persistante du nord-ouest au nord-est. Partout ailleurs, le ciel sera variable. Les éclaircies devraient généralement l'emporter. Quant aux températures, elles afficheront entre 16 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.